Bonjour, vous êtes bien sur les ondes de Radio Galère 88.4 pour l'émission hebdomadaire « Une heure en Palestine ». Aujourd'hui, l'émission sera faite par Isabelle et moi-même Brigitte, membre de l'association Palestine 13, branche locale de l'association France-Palestine Solidarité. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous écrire sur le mail asso.palestine13@gmail.com, asso.palestine13@gmail.com. Nous avons un site et vous pouvez également demander à être inscrit sur notre newsletter qui paraît tous les vendredis et qui vous donne une sélection d'articles sur la Palestine et un agenda des manifestations concernant la Palestine qui ont lieu dans le mois qui suit l'apparition de notre newsletter. Voilà, je passe donc la parole à Isabelle pour commencer cette émission.
Bonjour, je vais vous parler d'un voyage que nous avons fait, Brigitte et moi. Du 13 au 23 octobre dernier, nous avons participé à un voyage en Palestine organisé par l'association de retraités LSR. Nous étions 5 de Palestine 13 sur un groupe de 14 personnes. Après 2 jours à Jérusalem, nous avons pu aller à Hébron, Bethléem, Jéricho, dans la vallée du Jourdain, dans la région de Naplouse et à Ramallah. Ceux d'entre nous qui étaient déjà allés en Palestine ont été frappés par l'aggravation très rapide de la situation sur place. Personnellement, j'étais allée faire la cueillette des olives en 2015 et 2018 et Brigitte avait fait des séjours plus anciens à Gaza. Cette aggravation, elle est marquée par l'extension des colonies israéliennes autour de Jérusalem, autour de Ramallah, de Naplouse, par les constructions de routes de contournement israéliennes, les ponts, les tunnels qui défigurent le paysage, par la présence massive de l'armée israélienne à Jérusalem et en Cisjordanie, et par les violences dont nous avons eu écho pendant ce voyage. Le contexte était celui de la période précédant les élections israéliennes, avec percée de l'extrême droite et multiplication des attaques de Palestiniens par l'armée israélienne et les colons. Il faut rappeler qu'il y a eu 175 Palestiniens tués depuis le début de l'année, dont 41 enfants. On voit émerger de nouvelles formes de résistance chez des jeunes Palestiniens non affiliés aux partis et organisations, qui agissent seuls ou par petits groupes et qui attaquent l'armée et les colons. C'est le cas en particulier du groupe de la Tanière des Lions à Naplouse, qui, après l'assassinat par l'armée en août de leur dirigeant Ibrahim Nouboulsi, a lancé plusieurs attaques, déclenchant des réactions très violentes des colons. Du coup, en octobre, l'armée israélienne a décidé en punition collective de restreindre la circulation pour tous les habitants de Naplouse, en bloquant la plupart des entrées. Nous n'avons pas pu accéder à Naplouse, et nous avons pu voir les barrages de l'armée. Pendant notre séjour, ont eu lieu également des violences au camp de Shuafat à Jérusalem, déclenchant des manifestations de soutien en Cisjordanie, à Jérusalem et à Gaza. L'autorité palestinienne est complètement discréditée vu sa coopération avec les autorités israéliennes, en particulier chez les jeunes. Malgré ces éléments très inquiétants, nous avons une nouvelle fois été frappés par la force du mouvement de résistance chez tous les Palestiniens que nous avons rencontrés. Nous avons été reçus par des familles, par des associations culturelles, sociales, par des ONG. Et chez tous, une seule demande: témoignez de ce que vous avez vu, racontez, faites pression sur vos gouvernants. Alors, ce n'est pas toujours facile de transmettre ce qu'on a pu vivre au cours d'un voyage, mais nous allons essayer, et plusieurs émissions sur ce sujet ont été prévues. Aujourd'hui, c'est la première émission qui va être centrée sur la vallée du Jourdain, où nous avons eu un temps de rencontre particulièrement marquant dans un camp de Bédouins.
Alors, avant que nous vous donnions le témoignage précis sur ce qu'on a appris dans ce campement bédouin, on va peut-être reciter un petit peu la vallée du Jourdain. Donc, cette vallée du Jourdain se situe à l'est de la Cisjordanie. À l'est, elle est bordée par le Jourdain. Elle s'étend de la mer Morte au sud, au village de Bissan au nord, qui est le point de passage entre la Cisjordanie et l'Israël du Nord. Cette vallée du Jourdain recouvre 28% de la Cisjordanie et c'est la partie la plus riche en eau, en terres fertiles et en autres ressources. Sur cette vallée du Jourdain vivent environ 12 700 colons et 65 000 Palestiniens, avec un écart de vie énorme entre les deux populations. Alors, c'est en 1967 qu'Israël a occupé la Cisjordanie et a créé de plus en plus de colonies de taille très importante autour de Jérusalem, de Bethléem, contrairement à celles implantées dans la vallée du Jourdain. Là, en fait, il ne s'agit pas d'une occupation de peuplement, mais plutôt une occupation de positionnement, à la fois par une militarisation et par une conquête territoriale toujours plus grande, et d'autre part par une exploitation agricole et d'accès à l'eau pour l'ensemble d'Israël. C'est-à-dire que tout ce qu'aura récupéré Israël en eau, en puits, etc., en fait ne sert pas qu'à la vallée du Jourdain, mais sert à l'ensemble d'Israël. Relativement, les colons sont donc peu nombreux. Il s'agit de petites colonies. Les 12 000 colons ne représentent que 2% de tous les colons des territoires occupés. Mais dès 1967, Ben-Gourion déclarait « L'armée israélienne ne se retirera jamais des territoires occupés, ne se retirera jamais de la vallée du Jourdain, même en cas d'accord de paix. » Et cela a été redit après Oslo. C'est une région jugée beaucoup trop importante stratégiquement et économiquement par Israël. Les accords d'Oslo, donc 93, ont profondément modifié la vie des habitants de la vallée du Jourdain. En effet, c'est à partir de là que la Cisjordanie a été divisée en zones avec des caractéristiques différentes. Les zones A, sous contrôle de l'autorité palestinienne, les zones B, sous administration palestinienne, mais Israël gardant le contrôle militaire et sécuritaire, et les zones C, entièrement sous administration et contrôle israélien. Pour la vallée du Jourdain, il n'y a guère que Jéricho et quelques villages aux alentours qui sont en zone A, ce qui n'empêche pas les Israéliens d'y entrer régulièrement. Nous parlerons dans une prochaine émission de notre passage à Jéricho et de notre accueil dans un camp de réfugiés de Jéricho. Et il nous a été effectivement confirmé que ce n'est pas parce que Jéricho est en zone A que les Israéliens n'interviennent jamais. Et donc 88% de la vallée du Jourdain sont en zone C, donc entièrement sous contrôle israélien. Qu'est-ce que cela implique pour les populations palestiniennes, que ce soit des paysans ou des populations bédouines? La vallée du Jourdain regroupe 31 villages ou communautés palestiniennes, dont 22, donc les plus des deux tiers, sont en zone C et sont donc confrontés à d'insurmontables restrictions. Refus de connexion sur les réseaux d'eau ou d'électricité, interdiction de toute construction, même d'école ou de centre de santé, expropriation, vol de terre, limitation de l'accès aux ressources de base. En effet, par exemple, la construction de bâtiments est conditionnée par l'obtention de permis auprès des autorités israéliennes. Or, 97% de ces demandes sont rejetées. La plupart des Palestiniens habitant la vallée construisent donc sans permis et leurs habitations sont menacées de destruction. Le nombre de structures démolies a plus que doublé ces dernières années, ce qui a obligé au déplacement de centaines de personnes chaque année. Sur les destructions qui ont eu lieu en Cisjordanie, 40% d'entre elles ont été faites dans la vallée du Jourdain. On reviendra plus tard également sur la question de l'eau, qui est une question cruciale et qu'on développera un petit peu plus loin. Cette population palestinienne est aussi coupée des habitants du reste de la Cisjordanie. C'est toujours la politique depuis l'origine des Israéliens, c'est de couper au maximum les Palestiniens les uns des autres. Cisjordanie, Gaza, ceux de Jérusalem ne peuvent pas aller en Cisjordanie. Ceux de Gaza ne peuvent pas aller en Cisjordanie. Et là, ceux du reste de la Cisjordanie n'ont pas le droit d'aller dans la vallée du Jourdain. En effet, à l'exception des Palestiniens dont la carte d'identité mentionne qu'ils habitent dans l'un des villages de cette région, tous les autres Palestiniens de la Cisjordanie ne peuvent plus y pénétrer librement, et ceci depuis mai 2005, à la suite d'un ordre militaire, sans que le gouvernement ait débattu du sujet et que le public en ait été informé, selon l'organisation israélienne de défense des droits de l'homme B'Tselem. L'accès à la vallée du Jourdain est très contrôlé, elle est limitée à 6 routes, contrôlées par des checkpoints israéliens, qui interdisent donc le passage aux voitures des Palestiniens non résidents de la vallée. Donc la politique israélienne est vraiment aujourd'hui de continuer à déposséder les Palestiniens de leurs terres pour les récupérer à leur profit. Donc maintenant que nous avons un peu planté le décor de la vallée du Jourdain, on va illustrer cette stratégie israélienne à travers le témoignage d'un bédouin qui a accueilli notre petit groupe. Et je laisse donc Isabelle nous relater ce témoignage très fort que nous a fait ce bédouin qui nous a accueillis.
Alors effectivement, cette rencontre a été un temps fort de notre voyage. Nous avons rejoint le campement bédouin de El Hadidiya en quittant la route goudronnée qui nous avait permis de remonter vers le nord de la vallée du Jourdain et en prenant un chemin de pierre puisque les colons avaient détruit l'asphaltage de la route qui mène au campement. Nous avons été reçus par Abou Saker Abdelrahim, qui nous a reçus sous sa tente. Et en arrivant, nous avons pu voir un enclos avec des moutons, des chèvres, des poules et quelques baraquements. Avant de commencer l'entretien, nous avons partagé le thé et le café selon la coutume bédouine. Et puis, nous avons écouté Abou Saker. Abou Saker appartient à un clan de 16 familles, soit 116 personnes, qui sont réparties sur plusieurs points. Sa famille compte 27 personnes, mais ils ne sont que 8 à habiter sur place. En 1967, 300 familles habitaient là. En 1990, il en restait 54 et maintenant 16. Pour Abou Saker, les Bédouins ont été trompés par tous. la communauté internationale, l'autorité palestinienne, les occupants israéliens. Après les accords d'Oslo en 1995, on leur a dit que c'était une situation transitoire qui aboutirait à la paix, qu'Israël était un état de droit, mais ils sont allés jusque devant la Haute Cour de justice israélienne et ils ont découvert qu'Israël voulait seulement prendre la terre sans ses habitants. Alors, ils apprennent à leurs enfants la culture de résistance, coûte que coûte, même si ça mène à la prison ou à la mort. Ses fils se sont mariés à des femmes des villages voisins qui sont venues vivre au camp avec eux, malgré toutes les difficultés. Abou Sakar est allé deux fois en France et il nous dit « En France, j'ai vu des monuments pour les résistants. Alors pourquoi les Palestiniens résistants sont-ils appelés terroristes ? Nous avons des milliers d'années d'existence et nous n'existons pas sur les cartes. » De façon très claire, Abou Sakar nous explique la stratégie israélienne déployée en 8 étapes depuis 1967 pour récupérer les terres très riches de la vallée du Jourdain. En 1967, les cultures occupaient 15% de ces terres, le reste était en pâturage. Les éleveurs ont donc été les premières cibles. Première étape, de vastes zones ont été déclarées zones militaires. Les Bédouins qui y allaient étaient arrêtés et payaient des amendes. Au départ, c'était 10 dinars jordaniens par jour. Après, c'est allé jusqu'à 1000 dinars jordaniens par jour. Deuxième étape, les Israéliens ont tiré sur les troupeaux et tué des animaux. Troisième étape, ils ont créé des zones de quarantaine où les animaux volés étaient parqués et ne pouvaient être récupérés que contre amende. Mais les Bédouins ne sont pas partis. En 1987, quatrième étape, a éclaté la première intifada. De nombreux éleveurs ont été arrêtés, surtout des jeunes. Elle a duré 6 ans. Comme une femme enceinte qui ne peut accoucher, nous dit Abou Sakar. Et elle a abouti aux accords d'Oslo, avec division de la Palestine en zones A, B, C. Cinquième étape, les zones C ont été décrétées zones militaires, parfois sans militaires, et zones de tir, parfois sans tir. Et pour 60%, réserves naturelles, là où sont les pâturages. Les colons y mettent le feu dès que les herbes sont sèches. La plupart des pâturages ont été brûlés plusieurs fois. Les gazelles n'ont plus où aller et les oiseaux ont leur nid détruit. Le but des Israéliens est de créer une zone de sécurité tout le long de la vallée du Jourdain. Sixième étape, ils ont commencé à détruire les habitations. En juillet 1997, les habitants ont déposé une plainte collective devant la Cour israélienne, la Cour suprême israélienne. La réponse n'est arrivée qu'en 2006, déclarant les habitations illégales. Alors, ils ont payé un avocat israélien qui a demandé quantité de documents. Ils ont dû rechercher les titres de propriété de la terre jusque dans une colonie israélienne et ils ont pu produire ces documents. Mais on leur a rétorqué qu'il n'y avait pas de plan d'urbanisation. Alors ils ont payé une entreprise pour faire un plan d'urbanisation. Mais ils ont eu une interdiction d'ajouter quoi que ce soit à l'existant. Toutes ces démarches ont duré jusqu'en 2013, mais ont échoué. Et maintenant, les démolitions se poursuivent et on déclare zones militaires les zones qui étaient habitées et plus personne ne peut y aller. Même les internationaux ne peuvent plus y accéder. En 2014, par exemple, du matériel a été confisqué par les Israéliens au village voisin d'El Maleh. Une délégation de l'OCHA et du Croissant-Rouge a été empêchée d'y accéder. En 2015, le campement d'Al-Adidiya a été détruit à 32 reprises pendant 21 jours. C'était l'hiver, il pleuvait. Trois parlementaires français sont venus pour signifier que les tentes étaient propriété de l'Union européenne. Mais les tentes ont été enlevées dès le lendemain par les Israéliens. Et malgré tout, les Bédouins résistent. Les dernières manœuvres déployées par les Israéliens pour les faire partir sont, septième étape, lâcher des colons bergers qui s'installent avec leurs troupeaux dans les pâturages. Ils sont armés et protégés par l'armée israélienne. Et huitième étape, tarir toutes les sources d'eau. Les eaux du Jourdain ont été déviées pour arroser les colonies. L'eau souterraine des citernes est récupérée par ces mêmes colonies et polluée par celles-ci. Les anciens puits pour collecter l'eau de pluie ont été détruits ou sont abîmés et ne peuvent pas être restaurés. Actuellement, les Bédouins doivent acheter l'eau aux Israéliens, 25 à 30 nis le mètre cube. Il leur est interdit de construire un dispensaire, une école. Au campement, les enfants vont à l'école à 27 km de là, au village de Ain el-Beda. Quand ils arrivent après le trajet, même s'ils sont partis tout propres et bien, ils sont pleins de boue et de poussière et les autres enfants se moquent d'eux. Et à cause de ça, les enfants du camp détestent l'école et ils arrêtent très rapidement d'y aller. Pourtant, la 4e convention de Genève prévoit que la santé et l'éducation sont de la responsabilité de la force occupante, mais elle n'est pas appliquée. Pour finir, Abou Sakher nous confie « Le fardeau le plus lourd, c'est d'empêcher les jeunes de tomber dans la violence. Il n'y a aucune perspective. Quelques-uns ont vendu leurs troupeaux et sont devenus agriculteurs sédentaires. Beaucoup ont tout perdu et vivent de mendicité avec un petit pécule de l'autorité palestinienne. Une majorité travaille dans les colonies israéliennes, souvent chez le colon qui a pris leur terre. » Abou Sakher est allé jusqu'au Parlement européen de Strasbourg pour défendre la cause des Bédouins. Mais il attend toujours une réaction de l'Europe face à la politique d'Israël. Il ne compte plus non plus sur l'autorité palestinienne. Cette rencontre a été un temps très fort, et nous avons été impressionnés par le calme, la maîtrise, mais aussi la détermination de notre hôte. Et la rencontre s'est terminée en partageant un plat bédouin, le mansaf, du riz accompagné d'une soupe au lait caillé de chèvre.
Ouais, merci Isabelle qui a retranscrit vraiment l'entretien que nous a accordé Abou Sakher, parce que vraiment... Il a essayé de nous faire sentir tout ce que son campement et les campements bédouins voisins vivaient depuis des années et avec une escalade dans les violences. Donc nous allons faire une pause musicale avec une musique d'un groupe qui s'appelle Dark Andil. C'est un groupe qui émane de la ville de Tulkarem, qui est né dans un centre... culturel créé à Tulkarem il y a plus d'une vingtaine d'années, et ce groupe de musiciens a percé. Quand ils se sont lancés, ils ont très vite été très très populaires en Palestine. Voilà, donc on va vous faire écouter un morceau de leur œuvre. Voilà, donc après ce morceau de musique de ce groupe de Tulkarem, petite ville dont nous parlerons dans une émission prochaine, nous reprenons donc notre émission sur la vallée du Jourdain et les Bédouins et villages palestiniens dans la vallée du Jourdain. Isabelle vient de vous dire que le Bédouin qui nous a reçus nous a expliqué que ses enfants et petits-enfants maintenant, avaient 27 kilomètres à faire depuis le campement pour aller à l'école. Et donc, ils allaient à l'école dans un village qui s'appelle Ain El Beida, un village palestinien, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie dans ce village palestinien ? Il fallait en prendre un comme exemple pour qu'on met, en gros, on pourrait raconter la même chose de beaucoup des villages palestiniens de la vallée du Jourdain. Ce village a été créé pendant la période ottomane par des éleveurs et des agriculteurs palestiniens, évidemment. Le nom d'Ain El Beida tire son origine du nom donné à la source locale qui fournissait de l'eau fraîche potable au village. Après l'exode de 48 et le tracé de la ligne verte, le gouvernement israélien a confisqué de larges parcelles de terre au village. À la fin de 67, plus de la moitié des terres a été confisquée pour fonder ce qui allait devenir la première colonie israélienne en Cisjordanie, dont le nom est Meola. À l'époque, il avait été dit aux habitants palestiniens que cette colonie ne resterait que 5 ans et qu'ensuite les terres leur seraient rétrocédées. Mais plus de 5 décennies plus tard, la colonie est toujours là et aucune terre n'a été restituée à la communauté palestinienne. Ain El Beida est une commune agricole. Les produits cultivés sont principalement des légumes, agrumes, bananes. Ceux qui ne sont pas agriculteurs tirent leurs revenus de l'élevage. Pendant la guerre de 67, une grande partie de la population, essentiellement les propriétaires terriens, a été transférée de force en Jordanie. Alors, quels sont les problèmes majeurs que rencontre cette communauté ? 4000 dounums, qui correspond à peu près à 400 hectares de terre, ont été confisqués au village et environ 50 hectares supplémentaires ne peuvent pas être cultivés en raison d'un manque de ressources en eau. De ce fait, les ONG locales ou internationales qui aident un certain nombre une partie de la population palestinienne dans la vallée du Jourdain hésitent à mettre en place des projets de développement dans le secteur agricole à cause des quotas israéliens sur la consommation en eau. L'impossibilité de contrôler les ressources naturelles a forcé beaucoup d'agriculteurs à abandonner leurs terres et à aller travailler dans les colonies des environs, parfois, comme Isabelle le disait tout à l'heure, sur leurs propres terres. Outre cette première colonie de Meola, Le village est aujourd'hui entouré par 4 autres colonies. Alors, après avoir vu comment on vivait un peu dans un village palestinien, on peut se poser la question de comment on vit dans une colonie et comment on vit dans la colonie de Méola particulièrement. En 67, ce fut d'abord l'installation d'un camp militaire. Puis dès février 68, le camp est devenu une colonie civile. Alors, petit aparté pour dire que c'est à peu près toujours comme ça que les colonies s'implantent, c'est-à-dire que soit il commence à y avoir un poste militaire, soit il commence à y avoir quelques colons qui plantent des préfabriqués ou des tentes, et puis très vite l'armée les protège, et ensuite la colonie peut grandir. Donc ça a donc commencé en 67 par une installation d'un camp militaire, et dès février 68, le camp devient une colonie civile. Le nom de Méola a été choisi en raison de son importance biblique, car ce serait l'endroit où l'un des conseils locaux du deuxième temple aurait été établi. Là encore, c'est toujours la justification biblique de la colonisation. Les Israéliens reprennent toujours des termes bibliques. Donc, par exemple, on n'appelle pas Cisjordanie, on parle de Samarie et de Judée. Toujours reprendre les termes bibliques comme justification de la légitimité d'Israël à s'installer sur une terre. Les premiers colons de Méola ont fait partie des travailleurs Mizrachi. Les Mizrachi, c'est une des branches des sionismes religieux. Et c'était formé essentiellement par des jeunes qui venaient de terminer leur service militaire. Donc une colonie implantée par des très jeunes gens. Pour s'établir, les colons ont confisqué 50 hectares d'abord du village de Ein Belda, situé à proximité d'une nappe aquifère. Toujours la même chose, on prend d'abord l'eau, puisque c'est la ressource vitale. Puis la colonie s'est agrandie avec 500 hectares de terre au début des années 70 et aujourd'hui elle continue de s'agrandir. Elle ne compte que 609 habitants mais qui consomment presque 400 litres d'eau par jour et par habitant, plus une consommation de presque 9000 litres pour l'agriculture. Puisque cette colonie produit surtout des carottes, des concombres, des raisins, des citrons, des dattes, des melons. Produits que nous voyons souvent revendus sur nos marchés. Il y a également dans cette colonie quelques petites industries et un peu d'artisanat. Alors nous allons nous attarder un petit peu plus sur les questions de l'eau, bien que c'est souvent qu'on a eu à faire ça dans les émissions, mais c'est tellement crucial que c'est important de revenir chaque fois sur cette question de l'eau qui est absolument primordiale, surtout dans la vallée du Jourdain, qui est une terre tellement fertile et qui pourrait nourrir sans problème une population beaucoup plus importante. Un des objectifs d'Israël était de contrôler le Jourdain pour maîtriser les ressources hydriques qui sont les plus riches de toute la Cisjordanie. Avant le début de l'occupation, donc 67, les Palestiniens de la vallée du Jourdain avaient 254 puits. À partir de 67, les Palestiniens n'ont droit qu'à 40% de l'eau du bassin aquifère de la vallée. Puisque dès le début de l'occupation, Israël a accordé une importance particulière à cette eau. Et tout de suite au début, dès août 67, le gouvernement israélien décide que l'eau sera gérée directement par l'armée. Puis en décembre 68, que toutes les sources de Cisjordanie et de Gaza à l'époque, maintenant c'est plus le cas, sont propriété de l'État. Puis par la suite, le contrôle de l'eau est transféré par l'autorité militaire à la société Mekorot, qui aujourd'hui gère toute l'eau d'Israël et des territoires occupés. Aujourd'hui, les Palestiniens n'ont accès qu'à 24 puits. Rappelons qu'ils en avaient 254 en 67. Donc ils n'ont accès qu'à 24 puits, soit 10%, les autres ayant été petit à petit confisqués ou détruits par Israël. Mais un autre point à mentionner, c'est que Israël s'est strictement opposé depuis l'occupation au creusement de nouveaux puits palestiniens, alors que les colons israéliens sont autorisés à creuser des puits 5 fois plus profonds que ceux des Palestiniens. C'est-à-dire que les Israéliens, les colons israéliens ont le droit d'aller jusqu'à 1500 mètres de profondeur, alors que les puits palestiniens peuvent atteindre 300 mètres maximum. Ce qui fait que les puits palestiniens sont par conséquent le plus souvent asséchés. Les Palestiniens ne reçoivent aucune eau directe du Jourdain, dont ils exigeaient pourtant au départ 200 millions de mètres cubes. Mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, les installations hydrauliques des Israéliens, des Syriens et des Jordaniens, puisque le Jourdain est bordé par ces trois pays, ont réduit le débit d'eau du Jourdain de 98% par rapport à son potentiel des années 40. Nous n'avons pas été cette année au bord du Jourdain, mais j'y avais personnellement été il y a quelques années, et c'est vrai que le Jourdain ressemble maintenant à une petite rivière prête de s'assécher. Il y a un débit extrêmement faible. Et parallèlement, le niveau de l'eau de mer, de l'eau de la mer morte, baisse lui aussi d'environ 1 mètre par an. Donc depuis 1967, Israël a détruit 140 pompes à eau palestiniennes, parce que quand on ne peut pas avoir par les puits, pour faire remonter l'eau des puits, les Palestiniens utilisent des pompes. Donc 140 de ces pompes à eau palestiniennes ont été détruites et le gouvernement israélien en a confisqué 162 autres qui servaient pour l'agriculture. Résultat, seuls 37% des Palestiniens de la vallée du Jourdain sont effectivement raccordés à l'eau. Et comme tout à l'heure ça nous a été dit, les autres doivent acheter leur eau en citerne à la société israélienne Mekerot. Ils doivent payer l'eau entre 14 et 37 shekels le mètre cube, alors que le prix normal de l'eau au réseau d'adduction n'est que de 2,6 shekels le mètre cube. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, la différence de consommation de l'eau d'un colon est, je crois, 7 ou 8 fois plus importante que celle d'un Palestinien, sauf qu'il le paye 4 ou 5 fois moins qu'un Palestinien qui doit l'acheter. Ce qui fait que ça mène certaines familles palestiniennes à dépenser environ 40% de leurs revenus pour l'eau. Alors, il faut savoir que les 44 millions de mètres cubes d'eau annuels qu'Israël alloue à ses 12 000 colons de la vallée du Jourdain représentent le tiers de la quantité d'eau totale accordée aux 2,5 millions de Palestiniens de toute la Cisjordanie. Donc on a en Cisjordanie 2,5 millions de Palestiniens et on voit qu'on n'a que 11 000 colons dans la vallée du Jourdain. Ben, c'est 11 000 colons consomment trois fois plus d'eau que la totalité des Palestiniens de la Cisjordanie. Dans les colonies, il est consommé entre 400 et 600 litres d'eau par personne et par jour, alors que la plupart des Palestiniens dans la vallée du Jourdain reçoivent 60 litres par jour, soit 40% en dessous du minimum recommandé par la OMS. Ces chiffres sont même dangereusement bas dans certaines communautés bédouines de la région, qui n'obtiennent que 20 litres d'eau par jour, ce qu'on peut comparer à la situation en eau de zones sinistrées telles que des camps de réfugiés du Darfour ou d'Haïti après des tremblements de terre. Ce sont les Bédouins qui souffrent le plus de ce manque d'eau dans la région à cause de leurs faibles revenus et de leurs besoins en pâturage et en eau pour leurs bêtes. Ils achètent aussi l'eau à des prix exorbitants et ils doivent la rapporter chez eux par leurs propres moyens, soit par des camions s'ils en ont, sinon c'est à dos d'âne. Alors cette situation de stress hydrique constitue un véritable drame en même temps qu'une violation flagrante des droits des Palestiniens, de leur droit à la vie, à la santé, puisque l'eau est vraiment la ressource absolument nécessaire. Nous faisons une deuxième courte pause musicale avec une musique du même groupe d'Arcandil.
صارت قليش بكرة محسوب من الماضي باقي من عمري قديش بهالحالي ما فينا نعيش يا شويش حاضر بدك ترغمني انا صابر بس تجوعني شو صاير وتنام خدودك عريش يا شويش
Deuxième morceau de musique d'un groupe que nous ne connaissions pas du tout jusqu'à présent, mais qui semble donc être très populaire maintenant en Palestine. Nous arrivons vers la conclusion de cette émission. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le niveau de pauvreté dans la vallée du Jourdain est deux fois supérieur au reste de la Cisjordanie. Ce qui est quand même un comble quand on pense que la vallée du Jourdain est la partie la plus fertile. Mais vu les conditions d'occupation, c'est le niveau de pauvreté qui est vraiment très, très prégnant, puisqu'on dit que 60% des Palestiniens de la vallée sont en dessous du seuil de pauvreté. Et en plus, ils vivent dans un grand isolement politique et géographique. Les deux tiers des Palestiniens de la vallée n'ont d'autre choix que de travailler au sein d'exploitations agricoles israéliennes. Et donc, comme on l'a vu, souvent sur des terres qui sont les leurs, qu'ils avaient, que leur famille possédait depuis des générations. Tout le monde sait que si les Palestiniens pouvaient récupérer la vallée du Jourdain, ils pourraient y accueillir de nombreux réfugiés. Ils bénéficieraient du principal aquifère de la Palestine historique et pourraient développer une économie importante. Et le Jourdain, frontière naturelle, permettrait une ouverture vers le monde extérieur sans avoir à compter sur Israël. Puisqu'il faut savoir aujourd'hui que les Palestiniens de Cisjordanie n'ont pas le droit d'aller prendre un avion à l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv. Il faut qu'ils sortent de Cisjordanie par le pont Allenby, qui est le pont qui est frontière entre donc la Cisjordanie et la Jordanie. Et curieusement, ce sont les Israéliens qui contrôlent les entrées et les sorties au niveau de ce pont. Donc si les Palestiniens récupéraient cette zone et qu'ils en aient la maîtrise, ils pourraient donc aller vers l'extérieur en passant par la Jordanie sans avoir de contrôle par Israël. Mais cet espoir des Palestiniens n'est pas du tout dans le plan israélien, qui occupe toujours plus de terres et harcèle les Palestiniens de multiples façons, comme nous l'avons vu. Alors ce qu'on peut se demander, c'est, ben nous, ici, à Marseille, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire à notre niveau? Donc peut-être on peut dégager deux pistes. À court terme, et même assez court terme, il faut absolument aller signer la pétition qui est une initiative citoyenne européenne. Alors, c'est une initiative qui a été lancée par des ONG et des syndicats européens, parmi les plus influents. Il s'agit d'un dispositif grâce auquel des gens comme nous peuvent proposer des lois lorsque leurs dirigeants refusent d'agir. Légalement, si 1 million d'Européens signent dans le temps imparti, les institutions européennes sont sommées de répondre. Ce temps imparti, c'est jusqu'en février, donc on est quand même fin novembre, donc il nous reste encore un peu de temps, mais il faut absolument augmenter le nombre de signatures. Et pourquoi cette initiative citoyenne compte ? L'Europe est l'un des principaux importateurs des biens issus de colonies illégales et des entreprises implantées sur ces terres volées. Perdre le marché européen engendrera de lourdes répercussions financières pour le commerce issu des crimes de guerre et beaucoup d'entreprises devront probablement cesser leur activité. Nous protégerons ainsi des vies des foyers et des communautés tout entières. Puisque la plupart des fruits et des légumes exportés par Israël provient de cette vallée du Jourdain. La colonisation d'un territoire occupé par la puissance occupante est un crime de guerre au sens du droit international. Et les résolutions de l'ONU sont parfaitement claires. Tous les territoires conquis par Israël en juin 67, la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, le plateau du Golan, la bande de Gaza, sont des territoires occupés au sens du droit international. Alors Gaza plus aujourd'hui. De ce fait, toutes les colonies israéliennes dans ces territoires sont illégales au sens du droit international et tous les produits qui en sont issus sont des produits de cette illégalité. Alors, l'étiquetage des produits issus des colonies israéliennes, décidé par la Commission européenne en novembre 2015, a été un premier pas très important. Mais depuis des années, avec nos partenaires en France et en Europe, nous demandons d'aller plus loin. Il faut interdire l'entrée des produits des colonies sur le territoire français et plus généralement sur le territoire européen, de l'Union européenne. Il faut aussi savoir que cet étiquetage n'est absolument pas respecté, c'est-à-dire qu'on sait très bien que de nombreux fruits et légumes qui sont vendus dans nos marchés, dans nos supermarchés et sur nos marchés, sont étiquetés Israël, alors qu'en fait, ils sont cultivés dans la vallée du Jourdain, donc ne devraient pas pouvoir être importés. Alors comment faire? Pour signer cette pétition, le plus simple, c'est peut-être d'aller sur le site de l'association France-Palestine Solidarité, de l'AFPS. Et là, vous verrez, il y a des différents onglets. Vous allez sur l'onglet marqué « Action » et là, il y a les indications pour signer cette pétition. Donc nous vous encourageons fortement à le faire, puisque il faut atteindre 1 million de signatures à travers un certain nombre de pays européens. Et donc, il faut absolument qu'on accentue au maximum le nombre de signatures. Donc ça, c'est la première action, donc signer l'initiative citoyenne européenne. Et la deuxième action, dont on parle souvent, c'est à notre niveau de pratiquer autant qu'on le peut le BDS, donc c'est boycott, désinvestissement, sanctions. C'est donc effectivement à notre niveau de boycotter, notre niveau individuel, parce qu'après le désinvestissement ou les sanctions, c'est plus à un niveau collectif qu'on peut le demander. Mais le boycott à un niveau individuel, c'est justement de boycotter les produits, surtout ceux dont on pense, tous ceux qui viennent évidemment des territoires occupés, et quand ce n'est pas clair, de boycotter ceux venant d'Israël. Donc ça, c'est les deux actions que nous vous proposons de mener pour aider les Palestiniens à survivre et à récupérer leurs droits. Donc nous allons vous donner juste maintenant encore quelques informations sur les actions à venir, qui ne sont pas très nombreuses, mais ça vaut la peine d'en parler. Donc je repasse la parole à Isabelle pour qu'elle nous informe sur ce qui se passe prochainement.
Alors, demain, jeudi 24 novembre, à la Cité des associations 93 La Canebière, à 18h30, il y aura une présentation du rapport d'Amnesty International sur l'apartheid commis par Israël à l'encontre des Palestiniens. C'est un rapport qui est sorti le 1er février 2022. Il sera présenté par le président d'Amnesty France, Jean-Claude Samouillet. Et c'est à l'invitation du groupe Amnesty International de Marseille et de la LDH.
Alors peut-être juste pour compléter le titre du rapport « L'apartheid commis par Israël à l'encontre des Palestiniens » et le sous-titre, c'est quand même « Un système cruel de domination et un crime contre l'humanité ». Donc quand même, Amnesty qui a toujours une tendance à être relativement neutre et en tout cas pas provocatrice, là je pense que les choses sont dites absolument clairement. Et on vous invite à le lire, puisqu'il a 182 pages, mais il est quand même très éclairant sur la situation. Alors, peut-être juste qu'on peut dire aussi que cette conférence a été l'objet de menaces et de pressions qui voudraient censurer Amnesty et la LDH, des pressions qui s'exercent depuis 48 heures. Mais nous avons tout à fait bon espoir pour que cette conférence puisse se tenir, donc demain à 18h30.
Voilà. Ensuite, autre date, le 3 décembre, dans les locaux de la CIMAD, à la rue Catala, il y aura une vente de produits palestiniens, huile d'olive, broderie, poterie. Donc c'est un autre moyen de soutenir directement les producteurs palestiniens. Et en même temps seront présentés des produits de la CIMAD. La CIMAD est l'association qui nous accueille dans ses locaux, qui accueille l'association Palestine 13 dans ses locaux pour nos réunions. Voilà, donc le 3 décembre entre 10h et 16h.
Voilà.
Et puis dernière date, du 2 au 12 décembre à Cassis, il y aura un stand de la route du Zaatar avec des créations artisanales palestiniennes. C'est dans le cadre de l'exposition de crèche qui se tient à la salle voûtée de la mairie. Donc du 2 au 12 décembre.
À la Ciotat, c'est ça ?
À Cassis.
Voilà, donc je pense que nous avons terminé les informations proches, voilà. Et comme il nous reste un petit peu de temps, nous allons peut-être, après ces informations qui n'ont pas été très, très gaies, qui sont très sombres, mais qui sont malheureusement la réalité des Palestiniens, nous avons peut-être terminé par la lecture de l'un ou l'autre des poèmes de Mahmoud Darwish, poèmes issus de son ouvrage traduit de l'arabe par Abdelatif Lahabi et dont le titre est « Plus rares sont les roses », paru aux éditions de Minuit. Pourquoi choisir Mahmoud Darwish ? D'abord parce que c'est un poète palestinien, c'est le poète palestinien le plus connu, le plus emblématique, mais aussi parce que nous avons visité au mois d'octobre, nous sommes rendus à Ramallah sur la tombe de Mahmoud Darwish, une tombe extrêmement sobre, très belle, et dans le petit musée qui lui est consacré, juste à côté, et là aussi, où on voit un petit peu son parcours, musée très émouvant, où on retrouve toutes les rencontres qu'il a faites, le poids qu'il représente, l'importance qu'il représente pour la communauté palestinienne. Donc un premier poème qui s'intitule « Le vent nous est hostile. » Le vent nous est hostile. Le vent du sud pactise avec nos ennemis et le passage se resserre. Nous levons des signes de victoire face à l'obscurité. Puisse l'obscurité éclairer et nous nous élevons sur les arbres du rêve. Ô fin de la terre, ô notre rêve ardu, continueras-tu ? Nous écrivons pour la millième fois sur la dernière bouffée d'air. Nous mourrons, mais ils ne passeront pas. Nous poursuivons nos voies pour voir une lune parmi elles. Nous chantons pour qu'un rocher détale. Et nous gravons nos corps avec le fer. Nous les gravons pour qu'un fleuve pointe. Le vent nous est hostile. Le vent du nord pactise avec le vent du sud et nous crions « Où prendre pied ?» Et nous demandons aux dames des légendes des parents qui nous aimeraient morts. Un aigle s'abat sur nous. Nous poursuivons nos rêves pour les voir et ils nous poursuivent pour nous voir ici. Nul échappatoire. Poursuivant ce qui ressemble à la mort, nous vivons. Et cela qui ressemble à la mort est victoire. Voilà, on va peut-être en lire juste un dernier et puis on terminera l'émission. Ah, n'importe.
Je suis de là-bas. Je suis de là-bas et j'ai des souvenirs. Je suis née comme naissent les gens. J'ai une mère et une maison aux nombreuses fenêtres. J'ai des frères, des amis et une prison avec une froide lucarne. J'ai une vague dérobée par les mouettes. Mon paysage favori, l'herbe folle. Une lune aux confins de la parole, l'obol des oiseaux et un olivier immortel. Je suis passé sur terre avant le passage des épées sur un corps autour duquel ils se sont attablés. Je suis de là-bas. Je restitue le ciel à sa mère quand il pleure sa mère. Et je pleure pour que me reconnaisse le nuage à son retour. J'ai appris, afin de briser la règle, toute parole opportune au tribunal du sang. J'ai appris tout le langage et je l'ai défait pour composer un seul mot, patrie.
Voilà, nous terminons cette émission Une heure en Palestine que vous pourrez réécouter lundi sur les ondes de Radio Galère et nous vous disons à mercredi prochain à 18h. Bonsoir. Shalom.